Yves Maillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des investissements et de la gestion actions chez Robeco Gestion. On va parler avec vous, bien sûr, de ces marchés financiers et des perspectives sur ces marchés. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour vous sur les marchés aujourd'hui, au-delà des baisses quotidiennes? On le voit notamment dans le secteur bancaire. Est-ce qu'on c'est cette peur des investisseurs, effectivement, face aux risques qui sont de plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, de dettes souveraines, de faillites d'État?
Je crois que les marchés se rendent compte de la profondeur de la crise. On peut l'analyser sous deux angles, en fait. La crise est politique et la crise est une anticipation d'un ralentissement de la croissance, voire d'entrée en récession. En fait, nous vivons actuellement un nouvel épisode qui a démarré il y a un certain nombre d'années d'une crise de surendettement, surendettement public en Europe, surendettement public et privé aux États-Unis. La première illustration, premier déclenchement a été la crise des subprimes aux États-Unis en 2007, puis la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008. Depuis, il y a eu un certain nombre d'actions de politique à la fois monétaire et économique, et on se rend compte actuellement sur les marchés que les politiques keynésiennes de relance n'ont pas fonctionné ou très peu fonctionné, que la politique hyper reflationniste de la Fed aux États-Unis en matière monétaire n'a fait finalement que attiser les constitutions de bulles sur les marchés, et l'argent s'est très peu diffusé dans l'économie réelle. Donc face à ça, on a actuellement depuis quelques mois, et en premier lieu aux États-Unis d'ailleurs, un affrontement politique entre les deux clans qui aboutit, on a vu, à une difficulté de la résolution du plafond de la dette et puis à une dégradation de la dette du 3A américain. En Europe, le problème politique est un problème de cohérence et de cohésion de gouvernance économique face à ce problème aigu de la dette souveraine. Donc, dans ces circonstances-là, les marchés réalisent que les anticipations initiales de croissance que l'on avait au début de cette année sont tout à fait irréalisables et commencent à anticiper de sévères chutes des bénéfices pour les années à venir. Voilà un petit peu la situation actuellement des marchés.
Alors jusqu'à présent, on va dire que dans les périodes où ça allait un peu mieux qu'en ce moment, on peut dire que les investisseurs regardaient aussi ce que faisaient les entreprises, les résultats des entreprises, et on a l'impression qu'en ce moment, quelque part, on s'intéresse uniquement aux statistiques, à la macroéconomie, du coup, pour conforter peut-être effectivement les vendeurs sur le marché, mais que la partie entreprise intéresse moins.
Non pas qu'elle intéresse moins, mais le stress en ce moment est trop grand et il est relatif à un sujet un peu systémique, hein, qui est relatif aux dettes d'État et par voie de conséquence au problème des bilans bancaires. Donc dans ces situations d'extrême nervosité, d'émotion très très grande, le marché finalement regarde assez peu, voire pas du tout, les fondamentaux des entreprises industrielles, se posent plus sur les problèmes bancaires. Donc voilà un petit peu la raison de ces mouvements très très violents. En fait, les marchés ont horreur du vide, et de surcroît, ils ont horreur d'une incertitude qui est alimentée par des tâtonnements, une cacophonie politique. Donc dans ces circonstances-là, il est logique, même si ça peut paraître irrationnel au jour le jour, que les marchés, entre guillemets, pricent le pire d'abord, pour ensuite éventuellement rectifier des problèmes de sous-valorisation qui deviennent a priori évidents.
Alors, en gros, tant qu'on n'a pas d'informations, tant qu'on n'a pas de nouvelles un peu plus positives sur peut-être effectivement ce qui va se passer dans le secteur bancaire, c'est-à-dire l'exposition des banques aux risques grecs, aux risques des pays périphériques qui peuvent être touchés par éventuels défauts, tant qu'on n'a pas ces éclaircissements-là, on va continuer au jour le jour à avoir des variations erratiques et des baisses spectaculaires.
Oui, très probablement, ce serait mon pronostic. En fait, le système bancaire était le système central du marché et du circuit monétaire économique. La confiance dans les banques est très importante, et là, elle fait défaut. Et ce problème de confiance, il est relatif aussi au traitement de la dette souveraine, là, spécialement pour la zone euro. Donc effectivement, tant qu'on n'aura pas de discours politique beaucoup plus clair et qui montre une certaine cohésion, puisque c'est tout le contraire en ce moment au niveau de l'Europe, on sera dans des zones de forte volatilité. Alors, avec néanmoins quand même des points qu'il faut un petit peu essayer de se fixer, et compte tenu de la violence des mouvements, de l'importance des volumes, d'ailleurs dans cette phase de forte baisse qu'on connaît depuis un mois et demi, je pense que maintenant le marché regarde de très près des points supports un peu plus forts qui se situent aux alentours des points bas de l'année 2009. Donc voilà un petit peu un guideline en termes d'intervention. On s'en rapproche à grande vitesse, mais pour l'instant, il y a une très grande nervosité. Donc, des achats, des investissements massifs de la part d'épargnants d'investisseurs me paraissent pour l'instant encore délicats.
On a souvent au cours des derniers mois parlé de croissance mondiale avec notamment la croissance des pays émergents, bien entendu. Là, on voit aussi quelques signaux de faiblesse dans les pays émergents. Alors, on est quand même sur des croissances beaucoup plus fortes que ce qu'on peut avoir dans la zone euro aux États-Unis, bien entendu. Mais on a l'impression que là aussi, des craintes commencent à apparaître, que ce soit en Chine et que du coup, ce support peut-être des pays émergents, lui aussi, si la zone euro, si les États-Unis n'arrivent pas à retrouver cette croissance dont on parle, eux aussi seront touchés.
Oui, les pays émergents connaissent néanmoins une tendance à la croissance, une tendance structurelle qui leur est propre. Et donc, je pense qu'il faut continuer à parier, entre guillemets, sur cette capacité, ce début d'autonomie de croissance. Néanmoins, nous sommes dans des économies globalisées et une récession en Occident aura inévitablement des conséquences aussi sur la tendance de croissance de l'ensemble de ces zones. Donc, d'où la sensibilité que peuvent avoir, par exemple, les Chinois en ce moment sur le problème de la zone euro.
Alors, on parlait des États-Unis avec un nouveau plan donc proposé par le président Obama. On verra la suite. On parlait des dissensions politiques. On verra effectivement s'il se concrétise. On attendait de la réserve fédérale américaine un certain nombre de décisions, mais il semble que finalement aujourd'hui on n'ait plus on va dire, le phare qui guide un petit peu les investisseurs pour savoir un petit peu où on va.
Oui, bah, il y a une grande difficulté à la fois à avoir des échéances électorales maintenant proches, mais malgré tout éloignées compte tenu du temps rapide des marchés en ce moment, d'avoir un déficit budgétaire très important, et puis des contraintes politiques qui finalement paralysent complètement l'exercice du pouvoir avec une opposition au président Obama qui sent très bien sa capacité à reprendre le dessus. Donc il y a en quelque sorte, en synthèse, un blocage de l'action économique en ce moment. Quant aux interventions de la Banque centrale, elle avait utilisé l'arme très lourde depuis la faillite de Lehman, et elle se rend compte que ces politiques de quantitative easing ont finalement au moins autant de défauts que de qualités. Encore une fois, n'ont peu apporté, très peu apporté à la capacité, à l'économie réelle de redémarrer quand on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire la médiocrité du marché de l'emploi aux États-Unis actuellement.
Quand on parlait de cette peur sur les marchés, est-ce que ça empêche du coup les investisseurs institutionnels, les investisseurs long terme finalement de revenir sur ce marché? Ils auraient pu à un moment donné entrer et peut-être stopper cette spirale infernale.
Oui,
Aujourd'hui, on les sent pas encore en position de le faire.
pour l'instant, ils se brûlent les doigts sur toute velléité de réinvestissement sur les marchés actions, qui sont les actifs à long terme. Et puis d'autre part, les systèmes d'assurance de portefeuille, de gestion du risque, finalement alimentent aussi un petit peu la baisse des marchés actions, puisque pour se prémunir la valorisation des portefeuilles, beaucoup de gros investisseurs réduisent leur exposition au risque action. Donc on a finalement un cycle un peu infernal en ce moment qui alimente cette forte volatilité.
En conclusion, en termes d'allocation d'actifs, qu'est-ce que ça veut dire entre ces... On voit plus de risques aujourd'hui que d'opportunités. Il y a peut-être des opportunités, mais qu'est-ce que vous faites justement dans cette période-là? Est-ce qu'il faut être hors dehors de ce marché? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Plus de risques que d'opportunités, c'était notre maître mot en début d'année. Je pense que ça devient de moins en moins le cas. Néanmoins, nous sommes dans un état de forte nervosité. Donc les interventions sont pour l'instant encore hasardeuses. Donc je pense pour des investisseurs qui seraient peu investis, encore garder beaucoup de liquidités, se prémunir de ces mouvements-là. Attendre un retour au calme, car en fait on ne fait de bons investissements que lorsque la volatilité s'est un petit peu assagie. Il faut, sur des accès de faiblesse, et on en connaît presque tous les jours, commencer un petit peu à réinvestir, mais seulement par petites touches, me semble-t-il, sur des titres de qualité. Voilà un petit peu la principale recommandation et d'allocation que je ferai aujourd'hui.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Yves Maillot. Je rappelle que vous êtes
Merci.
donc le directeur des investissements et de la gestion actions chez Robeco Gestion.